Bonjour à tous. Je vais reprendre un peu une partie des idées qui viennent d'être présentées là. Et mon propos ici, c'est de parler on a souvent oublié quelle est la faune native des grands massifs français. Et je vais donc vous raconter l'histoire de la triste histoire de la grande faune des Vosges, en élargissant après avec des comparaisons que j'ai faites dans d'autres pays d'Europe, notamment en Biélorussie, et en faisant quelques propositions à la fin, que personne n'écoutera, mais je vous l'ai dit quand même. Je vais commencer par quelque chose d'alarmiste qui n'est pas mieux. Vous voyez qu'il y a à peu près 60% de déclin au niveau des vertébrés au niveau mondial, qui donc les causes sont bien connues, c'est les activités humaines, c'est la dégradation des habitats, c'est la surpêche, la surchasse ou pas assez de chasse ou je ne sais pas quoi. Bref, c'est une catastrophe. Alors je me suis dit, on va parler de la France. Donc j'ai pris l'exemple des Vosges, qui est la région où j'habite. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à l'est de la France. J'insiste en disant que c'est un milieu qui est naturellement fragile, puisque les sols sont acides, donc les sols sont acides, le climat est océanique et il y a un problème de pente, puisque ce sont des montagnes, donc une capacité alimentaire, donc une capacité relativement réduite, sur laquelle les hommes exercent donc une forte pression, déjà pas depuis 100 ans, mais depuis au moins 1000 ans. Donc c'est dommage qu'on ne voit pas bien, mais là j'ai des superbes photos de ce que seraient les Vosges si nous n'existions pas. Donc à gauche, vous avez une couverture dense continue du hêtre et sapinière. Au centre, quelques photographies des dernières reliques des Vosges. Et à droite, des choses qui ont carrément disparu qu'on trouve ailleurs. Ce sont les barrages de Castor qui occupaient tous les fonds de vallons et qui inondaient donc les vallons et quelques larges rivières pleines de bois morts. Ensuite, pour la faune native, je l'ai classée en fonction de... Bon, en haut, j'ai mis les quatre grands prédateurs. Enfin bon, j'ai rajouté le renard, parce que sinon il y a trop de disparitions. Donc l'ours, le lynx et le loup, en dessous il y avait de l'Europe, du bison, dont c'est la limite septentrionale occidentale, les cerfs, l'élan aussi existait dans les vallées vosgiennes, le sanglier, le chamois, le chevreuil, le castor, il y en a d'autres. Bon là-dedans il reste pas grand-chose, en fait on verra plus tard. Donc la première des choses, parce que je pensais que c'était en fait un colloque entièrement sur les relations homme-nature, donc j'ai insisté sur ce que les hommes faisaient de cette grande faune, en ayant fouillé dans les musées, donc vous voyez, on voit ici, du temps des néolithiques, vous aviez des usages évidemment traditionnels pour le bois, comme outil, mais également des usages du sacré, qu'on voit surtout dans les cornes d'Europe, qui se trouvent encore dans les musées. Et ici, je vais rapidement, sinon je vais parler 3 heures, la société gallo-romaine avec les grands mammifères, vous avez ici un dieu topique des Vosges, qui a donné le nom aux Vosges d'ailleurs, qui tient donc autour du cou une peau de loup et derrière lui un cerf. Donc c'est un chasseur qui doit protéger normalement l'esprit de ces animaux dans les Vosges. Et mais en même temps, évidemment, il y avait beaucoup de chasse du temps des Gallo-Romains, on le sait dans les textes, pour chasser surtout les sangliers, le bison et l'Europe, et essentiellement d'ailleurs le cerf, et pour les usages qui sont mis là, la fourrure, les cirques romains, ou alors simplement en tant que nuisibles à propos, parce qu'ils allaient dévaster l'agriculture. Ensuite, on arrive à un siècle qui a été la continuité des invasions barbares, la christianisation des Vosges, où j'ai retrouvé des textes qui sont bien connus, qui raconte donc la christianisation par Saint Colomban, quand il est venu d'Irlande christianiser les Vosges à la demande des Mérovingiens. Voilà quelques descriptions de la perception négative qu'on avait de ces forêts. Seule une foi inébranlable permet de vivre dans ces milieux-là, ou alors il a choisi son ermitage dans des zones uniquement peuplées par des grands animaux, les ours, les aurochs et les loups. Enfin, c'était une période bénie, évidemment. Mais d'après mon collègue Hermite, il me dit que c'était faux, parce qu'il fallait bien qu'il vive, et ces gens-là vivaient près des habitations, mais ça devait être quand même magnifique, il y avait encore des aurochs à l'époque de Saint-Colomban. Ensuite, quelques mots sur la disparition des plus vulnérables de ces grands herbivores. C'est lorsque l'ensemble des Vosges sont devenus des forestesses, c'est-à-dire des montagnes sacrées, où seuls les rois carolingiens avaient le droit de tuer les animaux toniques. Donc c'était essentiellement les grands herbivores, le bison, l'aurochs et l'élan. Pour acquérir la force magique. Donc, par exemple, il y a quelques textes qui disent que Charlemagne a plusieurs fois tué des aurochs. Il a même offert à la commune de Cornillon une corne d'aurochs qui a existé jusqu'à la dernière guerre mondiale. Après, ça a été volé. Qui vous montre aussi qu'il y avait une grande valeur symbolique des grands herbivores dans ces forêts des Vosges. Ils ont quand même provoqué, sans doute de manière rapide, l'extinction de ces 3 espèces. Mais également les Landes, dont peu de gens savent qu'il existait dans la plaine d'Alsace et sans doute les grandes vallées vosgiennes. J'ai retrouvé au musée de Metz donc, un bois d'élan sculpté qui datait du fils de Charlemagne, de Louis le Pieux, et qui est très joliment décoré, comme vous le voyez ici. Donc sans doute une valeur symbolique que je ne connais pas. Donc les plus vulnérables de ces espèces ont disparu entre le 6e et le 10e siècle, bison, auroch et élan. Et même le chamois, jusqu'à se demander s'il a vraiment existé, mais à la manière dont ils recolonisent les Vosges maintenant, on pense qu'il était vraiment en place. Mais je n'ai pas une preuve archéologique certaine. Et les carnivores ont résisté beaucoup plus longtemps, puisqu'ils ont résisté jusqu'au début des temps modernes. Le lynx, ça a été la dernière mention, c'est dans un texte du XVIIe siècle. Bon, c'est une espèce qui est beaucoup plus fragile. Elle est beaucoup plus discrète, donc probablement à cette époque-là. L'ours, lui, descendait, comme on l'a déjà vu avant, en pleine, avant l'hibernation, donc on sait qu'il descendait dans les vignes, et à ce titre-là, il est devenu dangereux. Donc il a été éliminé, mais il a quand même résisté jusqu'au XVIIIe siècle, dans les dernières vallées des Vosges. Mais 4 à 5 siècles avant, il était chassé encore en pleine, jusque le long du Rhin. Donc on a perdu également l'ours au cours du XVIIIe siècle. D'autres animaux ont disparu de manière plus discrète, mais quand même par persécution intense, notamment le castor, pour différentes raisons. Or, le castor est vraiment un ingénieur du milieu naturel, c'est lui qui façonne les vallées alluviales, et c'est la perte du castor, on n'arrive sans doute pas à l'évaluer par rapport à ce qu'il pouvait faire dans ces milieux-là. Ensuite, le carnage continue notamment au XIXe siècle, puisque à ce moment-là, il y a eu la démocratisation des armes à feu. Et là, j'ai retrouvé des textes, vous voyez, au début du 19e siècle, regardez ce qu'ils tuaient, là, ils ont séparé les loups mâles et les femelles. En 10 ans, ils ont tué, jeté au bois 200 loups, et un tas de renards, des sangliers, des musclidés, et encore 35, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est 934 autres qui ont été tués. Bon, là-dedans, il y avait aussi les 35, ça correspond aux chiens enragés. Mais il y a un vocabulaire toujours très négatif. Ce sont des pestes, ils sont mauvais, c'est le diable, ils sont voraces, ce sont des meutes de loups, même quand il s'agit de grands corbeaux. Et là, vous avez quatre grands oiseaux qui ont disparu complètement des Vosges à la suite donc, de ces carnages du 19e siècle. Ils sont maintenant réintroduits. Globalement, le cerf a été toujours la proie préférée des chasseurs pour des raisons symboliques qui datent sans doute des néolithiques. On pense même que le cerf étant apprivoisable, le cerf et l'Europe n'ont pas été domestiqués en Europe de l'Ouest à cause de sa valeur symbolique, disent certains archéozoologues. En tout cas, il était, vous voyez là sur des textes, des photographies que j'ai prises dans un bouquin sur la chasse, que l'essentiel des chasseurs, c'était également de tuer les cerfs qui, de toute façon, s'en sortaient comme bien jusqu'au 19e siècle. Où il a été éradiqué parce qu'on le considérait comme nuisible. Donc il a été éradiqué au 19e siècle au début, après il s'est réfugié dans le Donon, qui était justement une montagne sacrée, je ne sais pas s'il y a un symbole là, et il n'en restait que 300, et de là il a pu après recoloniser les Vosges. Donc quelques mots sur cette histoire du cerf, parce que j'ai fait une étude avec des généticiens suisses sur l'évolution de l'histoire du cerf, j'insiste que la population actuelle est issue de ces 300 individus qui ont survécu dans les Vosges, et c'est donc une population autochtone qui, elle, est, d'après la génétique, venait directement de l'Espagne à la fin de la dernière glaciation. Donc elle est particulièrement intéressante à conserver, quels que soient les dégâts qu'ils peuvent faire au niveau des forêts, il y a un équilibre à trouver, comme on dit actuellement. Donc elle est revenue parce qu'il y a eu des lois de protection, des plans de chasse, etc. Et je reviens maintenant à mes carnivores. Le dernier à avoir résisté à l'extinction totale, c'est le loup. Alors là, je vous ai montré des horribles choses, mais c'est ce que je suis en train de chercher. Au niveau français, on fait une étude génétique sur justement le loup, le loup français qui a totalement disparu. Le loup qui revient maintenant, il est italien, ou alors il est polonais ou allemand. Mais je ne dirais pas l'endémisme du loup, mais enfin, les loups français ont disparu, donc on fait de la vie. On va vous isoler, quels sont les flux de gènes, etc. Donc j'ai cherché un peu partout, d'abord dans les Vosges, puis ensuite dans l'ensemble de la France, qui avait des peaux de loup pour faire l'analyse génétique. Donc si quelqu'un connaît, peut-être au Chambord, il y a un vieux loup, je ne sais pas. Là, vous voyez ce que ça donne? Ça donne des loups empaillés que j'ai cherché dans tous les musées, dans des châteaux. Et vous voyez en dessous à quel point on pouvait tuer, donc c'est... Et parlons de la forêt, on dit que la forêt est surexploitée dans son, depuis très longtemps, en fait, depuis la fin de la guerre de 30 ans. Au cours du petit âge glaciaire et après, on a eu une augmentation de la technicité des Vosges avec l'apparition de toute l'industrie. Et vous voyez, bon, l'homme est partout, il coupe, il fait du scrutin de pouvoir, ils utilisent ça pour la guerre, pour la fonderie. Donc déjà, un fort impact de l'homme qui date sans doute depuis 5 siècles, qui s'est évidemment accentué au 19e siècle, à la fin du petit âge glaciaire, et l'évolution de la technique sylvicole, issue d'ailleurs des Allemands, où on a commencé à introduire trop de conifères. Donc on parle maintenant de boréalisation des forêts, avec une diminution des feuillus. Donc vous avez d'abord une modification dans l'ensemble de la composition floristique, c'est une étresse apinière qui devient... qui était envoyé maintenant par l'épicéa et maintenant par le Douglas, aux étages en dessous, plus un impact humain de plus en plus important, avec une ouverture des peuplements, avec plein de routes partout. On ne va pas rentrer dans cette polémique, mais enfin, la sylviculture dans les Vosges, c'est une vraie catastrophe, en résumé. Qui est d'ailleurs, qui ne sont pas les seuls, il y a également les chasseurs qui font dans certaines fédérations n'importe quoi. Je vous précise que le crédit dont je vous parle a été payé par la Fédération des chasseurs, qui ont été d'accord, je raconte ça. Et regardez, ils vont même eux-mêmes donner ce genre de choses pour lesquelles ils sont contre, c'est-à-dire le nourrissage en hiver qui ne se justifie pas pour attirer les sangliers, mais simplement pour conserver les animaux dans leur chasse, ou alors même en pleine, comme vous voyez là, pas loin des Vosges, l'ensemble des sous-bois complètement ratibosés par des ongulés. Donc vous avez les trois fléaux de la chasse actuelle, c'est le nourrissage qui élimine la concurrence naturelle. L'élimination par le climat, également une sélection pour les trophées qui est encore très active dans le sud et qui modifie la génétique des cerfs et ils acceptent assez mal les grands carnivores. Je dis quand même en passant que ce sont quand même eux qui m'ont payé l'étude sur la génétique du loup. Donc il y a toutes sortes d'intérêts parmi les chasseurs. J'ai aussi été pas mal aidé par le MEDEF, je suis tirée aussi. Mais bon. Alors voilà, vous avez donc des exemples de conflits, ils appellent ça équilibre forêt-gibier. Moi j'aime pas. Comme je vous demandais évidemment, quand on parle de forêt, il faut intégrer les animaux. Donc la forêt, ce n'est pas juste les plantations ou même le bois. La forêt inclut jusqu'à la dernière mycorhize. Donc moi, j'aurais mis plantations ou arbres et gibier pour être au plus juste écologiquement parlant. Enfin, on comprend que c'est des relations au niveau de l'aboutissement. Comme les forêts sont artificielles, comme il y a énormément de cervidés, eh bien, il y a évidemment des conflits entre la sylviculture intensive et une certaine chasse. Il ne sera jamais résolu. Non. Donc après ce triste spectacle, je suis allée dans sous des cieux plus cléments et je suis allée rencontrer Vadim Sidorovitch, qui est un zoologiste qui est professeur à l'Académie de Minsk et qui maintenant travaille dans les bois pour travailler sur les interactions entre les grands prédateurs. Donc ça fait 5 ans que je suis là-bas, on a travaillé un peu ensemble. Je voulais juste vous montrer ce qu'on aurait dans nos forêts si on n'avait pas tout dévasté depuis 1000 ans. Voilà, donc je commence par vous, ici, là, quand on se balade dans ces forêts. Dans les champs à côté, vous avez des traces d'ours. Là, je suis installée au milieu et je suis sur un nid d'hibernation. Et là, quand on met des caméras cachées, on voit passer les ours qui n'agressent d'ailleurs personne. Ensuite, au niveau des loups, c'est ce qu'on cherchait. Donc, je suis sa dynamique, cherche en fait l'évolution des loups, de la reproduction des loups dans ce milieu-là. Donc, vous voyez à gauche des traces de loups, on en a suivi plein. En haut à droite, au milieu, je ne sais pas si vous voyez très bien, vous avez des tanières, il y en a des centaines de tanières partout. En dessous, est-ce que vous voyez le loup qui arrive? Il a quelque chose dans la gueule. Il a été dans un village, il a été chercher un pneu, trouvé, et il le ramène pour ses petits parce qu'il faut qu'il mastique, parce que les dents sortent comme un bébé. Là, à droite, j'ai eu le plaisir de les avoir dans les bras quand même pendant quelques secondes. Pendant qu'on va chercher, on cherche le sexe, on sort quelques poils pour avoir l'analyse génétique. Et là, en bas, voilà, c'est mal, on voit avec la caméra cachée, il y a toute une meute de loups qui passait pas très loin de la maison en été. Donc c'est magnifique. J'étais bloquée d'aller là-bas. Là, regardez le lynx. Actuellement, le lynx progresse dans cette forêt, qui est à 2 heures de Minsk, et il est en train d'éliminer le loup. Donc c'est peu connu, mais en fait, le lynx est très compétitif vis-à-vis du loup dans un système pareil. Donc les traces de lynx sont déjà là. En haut, c'est des caméras cachées. Vadim, il a trouvé des petits lynx, là, dans la première fois, dans une tanière de loup. Et je vais là dans 3 semaines, peut-être que j'en verrai, je ne sais pas. Et là, vous voyez en dessous, un lynx, on appelle ça le teinture de loup. C'est spécialisé pour tuer les petits. Donc ils rentrent dans les tanières et tuent les petits. Alors vous allez dire, les loups, ils ben non, quand il y a la femelle toute seule, ben, elle tremblote, elle est là à côté, comme moi quand je plantais, et elle attend, il sort, et elle donc il y a de moins en moins de petits loups dans ces milieux. C'est des choses qui ont connu, parce que comme maintenant ça revient en Europe, il faut savoir qu'il y a une forte compétition dans certains cas. Non, c'est juste la nature. Ensuite, je voulais insister sur le côté de l'importance des rivières sauvages pour les bisons, pour le loup qui traverse. Ça donne de magnifiques photos quand on a la chance de les voir. Et aussi, ce qu'on voit souvent, ce sont des proies Alors là, vous avez l'élan à gauche, il est resté 6 mois, pendant 6 mois, les caméras ont montré je ne sais combien d'animaux qui étaient consommés. À droite, c'était une chasse récente où une biche a été tuée. C'est des choses qu'on ne voit plus dans les livres. Il n'y a plus rien. Donc, je ne vais pas terminer avec les solutions. Là, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est le culte de l'efficience absolue. Le regard, notre problématique de réflexion ici, c'est qu'on a un regard finalement très pragmatique vis-à-vis de la nature. Il faut qu'elle serve à nous, sinon ça ne sert à rien. Souvent, on va dire à quoi ça sert de faire revenir le double 1, c'est juste faire mon propre mari. À quoi ça sert? Parce qu'on a cette vision, c'est-à-dire on voit dans le bois doit servir à quelque chose, les rochers c'est des minerais, les paysages c'est la propriété foncière, la faune c'est la chasse, et même les sociétés paysannes servent à quelque chose. Donc on a besoin de justifier la protection de la nature parce qu'elle sert à l'humanité. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà donc comment il faudrait. Excusez-moi. Il faudrait commencer par modifier le guitare. Il faudrait commencer par modifier les habitats. Et même si vous ne pouvez plus parler, vous voyez que c'est le rouge qui est le bon. C'est-à-dire une forêt dense qui est proche de l'écosystème naturel des Vosges, qu'on connaît quand même, c'est-à-dire un milieu dense, avec des sous-bois comme ils peuvent venir, et surtout une régénération naturelle lente, qui, avec des semis qui résistent à l'abrutissement. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais c'est connu. Ensuite, il faudrait laisser le bois mort, on l'a déjà dit. Merci. Comme ça, vous pouvez aller à la photo. Donc, je l'écris parce qu'on voit mal. Donc, il y a plus qu'une idée. En dessous, c'est un cerf qui passe sur un...
Il passe sur un lierre. À droite, c'est le loup qui traverse. Et en bas, vous avez à droite le lynx qui, en fait, chasse à partir des bois morts. Il me grimpe aussi, vous avez un pouce au sommet, et il feu aussi. C'est extraordinaire, ça. C'est en train d'être découvert à Biélorussie. La deuxième des choses, pour aller vite, c'est de promouvoir la tolérance pour les grands mammifères, qui inclut évidemment quelque chose de légal. Là, ces deux animaux ont été sans doute éliminés par je ne sais pas qui, les braconniers, et qui avaient colonisé les Vosges. Il y a évidemment des inconvénients voilà, avec la faune sauvage que je vois dans ce village. Regardez là, je passais là, il y a un couple de loups qui arrive jusqu'à la maison au fond, qui est habitée avec des chiens. Ils ont considéré que cette maison faisait partie de leur territoire. Ils ont mis une grosse crotte à côté du chien. Et parfois, à droite, en bas, en haut à droite, vous voyez qu'ils dévorent le chien en passant. Bon. Et en bas, parfois, alors que c'est bizarre parce que c'est en fait la même espèce, parfois ils les dévorent, parfois ils récupèrent la femelle et ils font des petits hybrides qui vont vivre soit dans le village, soit dans la forêt et après on les récupère. Moi je vois plein d'histoires à vous raconter avec ces hybrides, c'est extraordinaire aussi. J'ai une question à savoir, est-ce que le chien considère que le loup considère que le chien est son espèce, dans ce cas-là, pourquoi il les mange et pourquoi en même temps ils sont. On n'a pas de réponse. Le fait que les loups hybrides, il y en a beaucoup dans des endroits où il y a peu de loups et beaucoup de chiens. Ce sont des inconvénients d'une certaine nature. Ensuite, il y a une chose qui me révulse, c'est ce qu'on voit sur certains... Regardez la nature au fond des yeux, les parcs, on va aller entendre les cerfs bramer dans les parcs zoologiques, et on met le loup, parce qu'il faut monter sur un arbre, sur le bout du bord, et on les entend dans le hurler. Ensuite, une autre piste, c'est évidemment de réintroduire certaines espèces. Pourquoi pas le bison, c'est pas possible, même en Allemagne, on pourrait le faire dans la vallée ou dans certaines vallées vosgiennes. Là, à la suite de mes travaux en Biélorussie, je trouve évidemment à la fois bien et un peu ridicule de voir tous ces journalistes-là qui font clic-clic devant un pauvre lynx avec un gros collier. C'est l'événement, alors que là-bas, il y en a 100, 100 qui reviennent tout seuls. Là, on est obligé de faire tout ce malais.
C'est
la
reproduction palatine en Allemagne, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Je sais pas quoi dire avec une photo pareille, à la fois absurde et bien, quoi. Et puis, je vais encore terminer par l'idée qui me tient à cœur. Précédemment, on a parlé des friches. Moi, mon idée, c'est que c'est justement là qu'il faut laisser la nature revenir. Et ce qu'on appelle la nature férale, et qui est maintenant très promue au niveau international, c'est la féralisation, le retour à la nature sauvage. Et c'est-à-dire recréer ces paysages de la peur dont on parlait avant. Dans le vert, ça a été fait, je crois, par. Enfin, ça, c'est vraiment plus précis. Vous voyez, tout ce qui est vert foncé, ce sont les zones en épuisage. Et bien là-dedans, vous pourrez parfaitement laisser la nature faire, puisqu'elle ne sert plus à rien, la protéger et permet donc à ses animaux de venir. Parce que la Biélorussie où je vais, c'est une nature abandonnée dans laquelle tous les animaux sont venus.
Et là, il y a un très beau bon, le bouquin de milieu, c'est moi qui l'ai écrit avec mon collègue Jean-Claude Génaud. Et à droite, il y en a un qui vient de sortir, qui est très bien, dont j'aime beaucoup le titre, c'est Réensauvageons la France, qui est magnifique à lire. Donc, je vous engage bien à lire ces livres, et surtout celui à droite, parce que ça vous donne une autre approche. Et sachez que tout ce qu'on raconte en France est une modalité qui commence à prendre pied dans d'autres pays, même très peu plus loin, pour lesquels on peut revenir à une version comme celle de Bélarus. Merci.